La première.
Oui.
22h, 23h.
Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Quoi, c'est important l'art? Pourquoi c'est important de le faire?
L'art,
façon de voir,
c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme.
Façon de voir.
Moi, je montrerai. Je montrerai tout.
Façon de voir.
Vert, rouge, jaune, violet.
Façon de voir.
Une œuvre d'art, et elle a un auteur. Et pourtant, bah, quand elle est parfaite, il y a quelque chose d'essentiellement anonyme.
Façon de voir.
Façon de voir.
Bon, c'est pas Picasso, c'est moi.
Façon de voir.
Façon de voir.
C'est quelque chose qui fait du bien à la tête par les yeux.
Façon de voir.
Façon de voir.
Façon de voir.
C'est à Charleroi que nous partons pour la première partie de cette émission, plus précisément au musée de la photographie, où l'on peut découvrir ces jours-ci le travail de Thomas Chable. Thomas Chable est photographe, il est aussi professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Liège. Thomas Chable aime voyager, faire des rencontres, prendre le temps. Je retrouve Thomas Chable dans les salles du musée, Au-dessus des nuages est le titre de son exposition. Mais pourquoi ce titre? C'est la première question que je lui ai posée.
Il y a environ 60 et quelques photos. Et je les ai voulues quand même lumineuses. D'où le titre Au-dessus des nuages, lumineuses, mais aussi avoir un horizon dégagé. Quitter le marasme d'en bas pour... pouvoir voir clairement ce qui se passe et avoir de la lumière. J'ai voulu cette exposition lumineuse au niveau des photos, du choix de photos qu'on a fait avec Xavier et Adeline.
Xavier Canon, Adeline Rossion.
C'est ça.
Du musée de la photographie de Charleroi. C'est une exposition qui réunit des photographies sur un peu plus de 30 ans, des photographies qui dialoguent et en même temps, il n'y a pas de hiérarchie, de ligne de temps, il n'y a pas de cohérence de lieu non plus. Vous avez vraiment voulu mêler les choses.
Oui, un grand mélange. C'est une pioche. Voilà, c'est une pioche dans... pas dans tout, parce que tout n'est pas là, tout n'est pas représenté. Par exemple, les travaux autour des brûleurs sur la question de la migration entre l'Afrique et la Belgique n'est pas du tout ici. De même que le travail qui a été fait en Palestine, sur les frontières, là aussi, hein, ce n'est pas du tout représenté. Donc là, j'ai voulu être autour du beau, de retrouver le beau, la dignité du beau. Donc c'est, les photographies tournent autour de ça. Donc effectivement, tout est mélangé à tout niveau. Ça marche par un groupe d'images qui communiquent entre elles. Ça peut être un paysage fait en Afrique avec un portrait fait en Belgique. Rien qui le dit en dessous des photos. C'est autour de l'image uniquement que ça se passe.
Thomas Chable, dans cette exposition, on va retrouver des photos prises en Belgique, beaucoup de photos prises en Afrique aussi, en Éthiopie, au Maroc, au Mali, au Burkina Faso, quelques-unes prises à Cuba aussi. On constate tout de suite, en tout cas, que vous aimez le voyage.
Oui, le voyage m'a pris à un moment donné, il ne me quitte plus. J'ai une première découverte de l'Afrique, en faisant une traversée du Sahara en 83, je crois, donc ça remonte déjà. Puis alors, le virus ne m'a pas quitté. Et le voyage, c'est important parce que pour moi, c'est un peu un atelier aussi. Quand je suis en voyage, ben, je prends mon temps, j'ai le temps tranquillement de magnoder à gauche, à droite, découvrir les gens, les choses, sans penser à autre chose que de faire de la photographie. Et ça, c'est important. Peu importe où, je peux me mettre en état de voyage en Belgique aussi, sans problème.
C'est quoi l'état de voyage?
Ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Essayer de quitter ses a priori sur tout ce qu'on nous a raconté ou tout ce qu'on a lu. Par exemple, je ne lis jamais de guide avant de partir quelque part, sauf peut-être pour savoir là où ils disent d'aller, donc où je n'irai pas. Mais je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le pays, j'ai envie de découvrir tout de moi-même. Je ne suis pas journaliste du tout, je fais des photos. Donc je n'essaye pas de rendre compte d'une réalité. La réalité, bah, c'est celle des rencontres. Voilà, et c'est les rencontres qui font le voyage, qui font les photos, en fin de compte. Je ne suis pas tout seul à les faire, les photos. J'étais en Turquie, et la Turquie, ben, ce que je voulais faire, c'était la portrait. Donc, évidemment, j'allais à la rencontre des gens. Et en Turquie, c'est très facile. C'est très facile de rencontrer des gens. En Éthiopie, je voulais aller en Érythrée. Puis j'ai atterri en Éthiopie, je me dis, ben, de là, je prendrai le bus, j'irai en Érythrée. Puis je restais une semaine là-bas, j'ai rencontré des gens. Puis après une semaine, je me suis dit, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je reste en Éthiopie avec ces gens-là, puis voilà, c'est eux qui m'ont fait découvrir le pays. Le pays, puis ça m'a mis sur d'autres personnes, c'est boule de neige. Voilà. C'est eux qui me font mon voyage pour finir. Au maximum, j'ai une carte du pays quand je voyage. Tu m'y as pas, je ne me dis pas au préalable, tiens, je voudrais aller là-bas ou là-bas ou là-bas. Non, c'est un peu les gens qui me prennent par la main. Et puis, bah, tiens, viens voir où j'habite. Et en filant les aiguilles, bah, je parcours une partie du pays. Voilà, l'Éthiopie, j'étais une bonne dizaine de fois, mais encore toute une grosse partie du pays que je n'ai jamais visité, voilà. Peut-être un jour, peut-être pas, c'est pas grave. Le tout, c'est pas de faire tout le pays. Là aussi, il y a un truc de faire tout le pays, de voyager dans tout le pays. Il y a ce formidable écrivain suisse, Nicolas Bouvier, qui a écrit L'usage du monde, que je recommande à tout le monde, d'ailleurs, dans lequel il parle de... On ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui nous fait. Et il a tout à fait raison, effectivement. Sinon, ça sert à rien de voyager.
Nicolas Bouvier, il voyageait avec des carnets, je pense. Hein. Vous voyagez avec un appareil photo. Est-ce que l'appareil photo, c'est plutôt une aide à la rencontre ou une contrainte ?
Bah, c'est les deux à la fois. En tout cas, moi, ça me fait un prétexte pour aller rencontrer les gens. Et puis parfois, ça n'aide pas du tout parce que ça peut faire peur. Ça peut effrayer des gens. Je sais qu'à un moment donné, j'ai changé d'appareil photo à cause de ça. J'avais un Canon Hasselblad. Qui a tendance fâcheuse à faire beaucoup de bruit au déclenchement. Et je sais que j'ai déjà effrayé des gens. Donc après, je me suis acheté un appareil photo, obturateur central, voilà, qui fait un petit clic qu'on n'entend pas. Donc c'est beaucoup plus sympathique. La photographie ne plaît pas à tout le monde. Je ne demande pas, moi, aux gens si je peux ou ne peux pas les photographier. Parce qu'en général, c'est des gens que je rencontre, qu'on les contacte. Puis au bout d'un certain moment, ben, je sors l'appareil photo et je vois si il acceptait ou pas, si je peux ou pas faire des photos. Le seul moment où j'avais demandé, c'était quand j'avais fait le travail sur les migrants. Donc là, quand même, je trouvais que c'était important de leur expliquer ce que je faisais, donc de leur demander, poser la question si je pouvais le faire. Et bien souvent, c'était oui.
Mais ce ne sont pas des photos volées non plus, ce sont des photos où vous affichez le fait que vous sortez votre appareil et que vous allez faire des photos, quoi.
Oui, non, tout à fait. Il y a très peu de photos de gens que je ne connais pas, que j'aurais pris à la volée dans la rue comme ça. C'est quelque chose que je ne sais pas faire, simplement, voilà. Abdallah, par exemple, cette photo-là, c'est Abdallah, c'est quelqu'un que je vois régulièrement quand je retourne en Éthiopie. Ça peut être une rencontre d'une journée, hein. Ce n'est pas une question de temps non plus.
Voilà. Si on parle des personnages dans vos images, Thomas Chable, vous ne donnez pas tout à voir, c'est-à-dire qu'on va avoir des détails, on va avoir des contre-jours, des parties dans l'ombre. Il y a une certaine forme de pudeur. Ils sont à la fois bien présents et en même temps, vous n'en montrez pas trop.
Oui, c'est un petit peu l'envie aussi de ne pas tout dire, de laisser la place à l'imaginaire, qu'on puisse s'approprier aussi l'image et se projeter, montrer une partie, pas tout. Je fais très peu de portraits, très peu de portraits directs comme ça, frontal. J'aime bien fabriquer des images avec un premier, deuxième, troisième plan, qu'on puisse découvrir ça au fur et à mesure, peut-être pas au premier coup, mais avec le temps. On peut avoir cette image. J'aime bien aussi avoir plusieurs plans qu'on puisse découvrir au fur et à mesure dans ces photographies-là. Mais parfois, ça prend du temps. C'est parfois seulement en regardant après une semaine qu'on dit « Ah, tiens, je vois ça différemment. » Mais surtout, ne pas tout montrer. Je fais rarement des images frontales.
Très tôt dans le parcours de l'exposition, il y a un mur avec des tirages de photographies principalement prises en Belgique. Votre famille, votre fille ?
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ma fille avec son ami, et puis notre chat, et puis intervient la mère, les mères, bon, parce que l'ami a une mère aussi. C'est Salomé et Luna, très jeunes, 4, 5, 6, 7, 10 ans. Elle en a aujourd'hui 24 ans, Salomé, elle se voit toujours, voilà, c'est toujours de grandes amies. Et j'avais envie d'avoir ce morceau-là aussi. C'est toutes ces photos qui ont été faites souvent à l'étranger, ben voilà, là, c'est chez nous. Chez nous, en fait, c'est là où on se sent bien. Mais chez nous, c'est la Belgique, par exemple.
Et ces images, elles ont été publiées dans un livre édité par les éditions Le Caillou Bleu.
Oui, c'est ça.
Il est disponible ici, au musée de la photo, d'ailleurs.
Oui, il est là.
On va avancer un petit peu dans l'exposition.
Façon de voir.
Avec Thomas Chable.
Et Fabrice Cada.
Nous sommes dans une partie où j'avais envie de vous faire parler de la lumière dans vos images.
J'ai souvent fait des photos en Afrique et c'est quand même très lumineux. Hein. Alors la particularité aussi, c'est qu'il fait chaud. Et qu'à un moment donné, ben, on reste quand même sous une tente ou on est quand même sous une natte. Mais il y a toujours cette lumière qui est présente et donc il y a les rideaux. Et cet effet de lumière qui, à un moment donné, s'invite dans la pièce, c'est quelque chose de merveilleux. Ça réveille tout ce qu'il y a dans la pièce, qu'on ne voyait peut-être pas ou pas bien auparavant. La lumière, c'est comme ça que je la vois. C'est de se faire happer comme cette image-ci. Où il ne se passe pas grand-chose, à part que la lumière est là. Elles sont assez calmes, ces images-ci, en fait, quand je regarde. Youssouf, voilà. J'habitais un mois chez Youssouf, là, au Burkina Faso, au bout du Lasso, qui est en train de fumer une cigarette dans l'embrasure d'une porte. Voilà, c'est extrêmement calme. Très calme. Et puis, il y a ce lac, voilà, cette lumière de petit matin qui vient sur ce lac. Le petit matin aussi, qui est en train de se lever, tranquillement, voilà. Et c'est une lumière où... On distingue plus vraiment la rive, hein, la différence entre la rive et le fleuve même, l'eau du fleuve, voilà, qui par moments attrape un peu une substance comme un lait moelleux. Ça.
Au-dessus des nuages, l'exposition de Thomas Chable est à découvrir au musée de la photographie de Charleroi jusqu'au 26 mai. Deux autres expositions sont aussi à voir ces jours-ci, Le monde de la mode selon Peter Knapp et Les étonnants portraits d'animaux d'Eliot Ross.
Bonjour, c'est Rocco.
Oui, enchanté.
Enchanté. Par ici ?
Oui, c'est par ici. Oui.
Si ok. Vous voulez.
Je aussi. Et en fait, ici, c'est le nouveau bâtiment que la SBL, SD34 vient d'occuper.
Mmh. Bonjour.
Je m'appelle Rocco Miyoshi, je suis un artiste plasticien. Ça fait une vingtaine d'années que je suis à Bruxelles. Mon père, il était belgo-italien et ma mère japonaise. J'ai une pratique qui est un peu peut-être atypique comparée aux autres artistes. J'essaie de produire le moins possible. En tant que sculpteur, je collectionne pas mal d'objets, d'images et des documents, souvent anciens. Et c'est une démarche en principe écologique et en même temps, c'est aussi une démarche de transmission. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. J'essaie de retrouver des documents qui sont restés dans l'oubli et j'essaie de les rendre visibles, en fait.
Rocco, si je pouvais vous demander de nous décrire les documents que vous avez devant vous.
Donc ça, c'est une petite partie de ma collection de photos de presse. Et je m'intéresse à ces images, en fait. D'abord, des images qui ont été aussi utilisées dans les bureaux d'édition de pas mal de journaux. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de reprendre en fait les images qui ont été recadrées. Donc, il y a un travail d'abord du cadrage des photographes, et après il y a des recadrements par les éditeurs des journaux. C'est un travail réducteur qui aussi pourrait rappeler mon travail qui est aussi réducteur et souvent minimaliste. Je m'intéresse au cadrage parce que c'est des points de vue assez subjectif. Il y a d'abord des cadrages faits à la main, donc soit dessinés ou peints sur la photo elle-même.
Ici, nous avons Staline, Karl Marx.
Oui, Karl Marx, pas que. On a aussi des politiciens américains, plus connus, moins connus. Et j'ai plusieurs thématiques par rapport aussi au monde du travail. Et quand on parle de cadre, on peut parler de cadre dans le cadre. C'est souvent aussi des travailleurs qui sont pris derrière les structures de travail.
Là, on a un ouvrier qui est en train de travailler sur la construction d'un gratte-ciel à New York, j'imagine.
Ouais. J'aime bien l'idée du cadrage parce que souvent, on est encadré. On doit suivre certains codes quand on travaille.
Et cette collection d'images, vous allez la présenter à Art Brussels dans une structure qui fait référence justement à ces cadrages dont vous parlez.
Exactement, oui. Donc c'est une structure inspirée par des sculptures modernistes et en même temps c'est une structure industrielle. Je voulais faire une structure qui sert comme socle ou comme vitrine, mais qui n'est ni l'un ni l'autre. Et la structure sera posée d'une manière où tout le monde pourra marcher autour de cette structure.
Une structure qui est assez grande.
Elle est assez grande, oui.
Le projet que vous présentez, il a un titre, Rocco, ça s'appelle TWIB, The World is Bananas.
C'est assez simple, en fait, c'est un dit américain, on l'utilise surtout en Amérique. The World is Bananas veut simplement dire que le monde est fou. Vu que comme je fais des recherches sur des photos de presse, bon, à l'époque je regardais quand même quelques milliers d'images par jour. Et je suis tombé sur une farde avec des photos de la United Fruit Company. J'ai décidé de les acheter et en parallèle j'ai fait des recherches sur la United Fruit Company qui est devenue Chiquita un peu plus tard. C'est un sujet qui englobe toutes les problématiques de ces deux derniers siècles en fait.
Et qu'est-ce que c'est exactement la United Fruit Company ?
Donc c'est une entreprise qui avait commencé au début du siècle passé, qui a commencé comme une petite entreprise par deux personnes, et qui petit à petit ils ont repris d'autres entreprises, et c'est devenu un peu un monopole. Ils sont devenus très grands. Ils ont construit la plupart des systèmes de transport de train en Amérique latine, justement pour transporter les bananes plus rapidement et plus facilement. Et ils transportaient de l'Amérique latine à l'Amérique, au Canada, les bananes par bateau. Et cette flotte, en fait, qui avait été créée pour transporter ces bananes, est devenue tellement grande qu'à un moment donné, c'était la flotte commerciale la plus grande du monde entier. On l'appelle toujours la Great White Fleet. C'est aussi les premiers à utiliser des bateaux réfrigérés. Et en plus de ça, pour maximiser leurs profits, vu qu'ils avaient ces bateaux qui partaient des ports en Amérique du Nord et qui retournaient en Amérique latine vides, mais ils se sont dit pourquoi pas faire des bateaux de croisière. Donc c'est un peu aussi les précurseurs de ces bateaux de croisière.
Dans tous les documents que vous avez réussi à collecter, vous avez des photographies, évidemment, et puis vous avez une série d'autres documents, et notamment des menus, des repas qui étaient servis lors de ces croisières.
C'est ça. Oui, il y a des menus qui datent des années 20-30 jusqu'à années 60-70, avec des plats assez raffinés, on va dire.
Évidemment, ici, avec cette United Fruit Company, on est en plein dans vos sujets de préoccupation, la propagande, quelque part, ouais. Et puis les systèmes de domination.
Exactement. Je voulais retracer le début de ces systèmes de propagande moderne, on va dire, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à maintenant. En fait, c'est des outils et des manières qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et c'est surtout ces institutions ou organisations qui sont au pouvoir qui les utilisent pour pouvoir dominer, comme vous dites.
Cette installation s'inscrit donc dans le cadre de Art Brussels. Est-ce que c'est différent d'imaginer un projet pour une foire telle que celle-là ou pour d'autres lieux, d'autres circonstances ?
Je pense que mon travail, il est souvent plutôt présenté dans des institutions. Et c'est pour ça que, en fait, je m'intéressais à présenter ce travail à la foire, parce que je voulais toucher un autre public. Je joue beaucoup avec les objets et les structures pour présenter ces objets ou ces images. Et je me dis, pourquoi pas aller un peu plus loin et montrer des travaux qui ne sont souvent pas montrés dans une foire.
Rocco Miyoshi, à vos côtés, il y a la commissaire de cette installation.
Hi. So my name is Alicia Melzatska. I'm a curator and a writer.
Je m'appelle Alicia Melzatska. Je suis curatrice et autrice. Je travaille principalement en Belgique et aux Pays-Bas. Je suis originaire de Pologne. Je connais Rocco depuis plusieurs années et nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur d'autres projets. Je pense bien connaître sa démarche et ce projet-ci est le résultat des nombreuses discussions que nous avons régulièrement à propos de son travail.
Comment est-ce que le visiteur va être accueilli dans votre installation ?
J'imagine que la structure sera imposante. Elle va occuper une grande partie de l'espace de notre stand sur la foire. Pratiquement, nous ne laissons que peu de place aux visiteurs pour circuler autour de l'installation et l'envisager sous différents angles. Et à cause de l'échelle de la structure et sa profondeur, certains éléments seront moins visibles que d'autres. À nos yeux, il y a ici un parallèle à faire avec les stratégies de censure et de propagande pour déplacer certains éléments et en cacher d'autres. Nous nous réjouissons aussi de jouer avec les codes de la foire, avec les outils de médiation ou avec certains espaces comme le back-office, où les collectionneurs sont souvent invités à découvrir d'autres œuvres dans une atmosphère plus
intime.
Notre back-office sera rempli de contenu additionnel, d'éléments que Rocco a utilisés pour ses recherches. Et puis, la traditionnelle liste de prix des œuvres sera remplacée par des explications sur les nombreuses archives utilisées.
De l'autre côté du stand, on a un espace de stockage. qui sera fermée par des boîtes de bananes. Mais à l'entrée, il y aura une étagère avec tout plein de livres sur la géopolitique en Amérique latine.
Bananas, l'installation de Rocco Miyoshi, est à voir à Art Brussels du 25 au 28 avril. Pour sa 40e édition, la foire réunit plus de 170 galeries belges et internationales. Elle est située à Brussels Expo, tout près du Ezel.
Alors voilà, bonjour, moi je m'appelle Rémi Anse, je suis l'artiste plasticien qui expose en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Tournai.
On se trouve ici dans l'atrium du Musée des Beaux-Arts. C'est un lieu que vous connaissiez déjà, vous avez reçu ici un prix important.
J'ai eu l'occasion de remporter le prix du Hainaut.
Votre travail ici dialogue avec l'architecture de Victor Horta.
Il s'avère que justement dans cette première proposition qui m'a valu justement le prix du Hainaut des Arts Plastiques, j'avais questionné l'architecture en elle-même du musée.
Julien Foucard, donc conservateur du Musée des Beaux-Arts de Tournai. On se trouve ici dans l'atrium du musée, donc cet espace central. On suit précisément par Victor Horta pour accueillir des pièces en trois dimensions, en sculpture.
Il avait reçu ici même le prix de Hainaut en imaginant, en dessinant de son crayon bleu, hein, qui est son médium de prédilection, en imaginant un musée reconquis par la nature. Donc, cette vision finalement anthropique d'un musée qui s'interroge justement sur son devenir était pour nous déjà une image forte. À l'occasion d'un cycle d'exposition qui revient sur l'histoire singulière du musée, la jeunesse du musée, cette histoire d'amitié entre un collectionneur Henri von Kutzem et un architecte Victor Horta, pour interroger cette histoire, il nous semblait intéressant de réinviter Rémi à venir questionner ici les traces, les outrages même causés par le temps sur cette architecture, d'où aussi le titre de l'exposition « Les Bleus du Temps ».
Alors les Bleus du Temps, d'une part il y a cet aspect qui est très important de la colorimétrie elle-même, donc le bleu, qui finalement est là propre à mon travail plastique, même s'il n'y a pas que ça dans mon travail plastique, il y a aussi du graphite gris. Mais le bleu revient très régulièrement. Il y a aussi l'aspect du bleu, que l'on peut aussi avoir des affres laissées par le temps, corporelles, si je puis dire, de quelque chose qui blesse. Voilà, donc c'est vraiment pour faire allusion à la finitude des choses, quoi.
C'est d'abord un sens poétique, mais c'est aussi les bleus d'architecte, d'architecture, c'est-à-dire les plans, les cyanotypes qu'on a retrouvés récemment, qui avaient cette matérialité bleue, cette plasticité qui nous est pensée d'ailleurs au travail de Rémi Hans. L'invitation, les Bleus du Temps, c'était d'abord d'interroger avec Rémi ses plans. Et la tentation était grande aussi de faire revenir dans le seul musée que Victor Horta n'ait jamais réalisé et le seul atrium de sculpture qu'il n'a jamais réalisé, de faire revenir dans cet atrium des pierres que Victor Horta a dessinées. Toute une réflexion finalement à partir de ce bleu évanescent que Rémi utilise, qui est un bleu qui contient en lui-même un caractère éphémère. Et cette idée d'interroger ici le caractère éphémère finalement de toute tentative de vouloir esthétiser le monde était pour nous fort intéressant. À cet instant précisément où on vit une période cruciale pour le musée, puisqu'on attend un important projet d'extension, de rénovation. Il était important d'interroger cette tension qu'il y a ici entre conservation et oubli, entre apparition ou disparition, entre présence et absence, et quelque chose aussi entre persévérance et fragilité. Il y a à la fois des pierres où la pesanteur est très importante, mais en même temps il y a un détachement onirique aussi dans cette exposition, qui renvoie aussi à l'architecture du Art Nouveau, qui est une architecture onirique, une architecture rêvée quelque part.
Je suis Barbara van der Wee. Je suis architecte et je suis spécialisée en restauration des monuments historiques du 19e et 20e siècle.
Et vous êtes l'une des spécialistes de la restauration des bâtiments Horta.
C'est vrai que depuis presque 30 ans, je m'occupe des bâtiments de Victor Horta. J'ai commencé avec la restauration du musée Horta et aussi de l'hôtel Van Eetveld et Beaux-Arts et d'autres bâtiments d'Horta.
Pratiquement tous les bâtiments Horta ont été rénovés ou sont en cours de rénovation. Est-ce que vous pouvez me dire où on en est pour l'instant avec le musée des Beaux-Arts de Tournai ?
Pas tous les bâtiments sont restaurés, mais il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de restaurations déjà faites, des restaurations en cours. Mais c'est vrai, le musée à Tournai est un des bâtiments le plus important presque d'après la guerre, et on attend vraiment une restauration. Ce bâtiment est assez en bon état, je ne veux pas dire physiquement, mais quand même il n'a pas été transformé comme par exemple le Beaux-Arts ou le musée Horta, etc. Ils ont eu beaucoup de transformations et c'était assez compliqué de retrouver l'esprit d'origine. Ici, le bâtiment est encore, si on peut appeler ça dans son jus, le bâtiment doit être vraiment restauré profondément, mais aussi aujourd'hui, il n'est plus aux normes. Hein. C'est un musée avec une collection extraordinaire et cette collection demande beaucoup de soins, un climat beaucoup plus approprié, et le fait que le musée, avec cette extension, veut recevoir des œuvres de différents musées internationaux, et on doit absolument adapter le bâtiment pour organiser des expositions avec des œuvres d'autres musées.
Il s'avère que j'ai toujours eu une pratique du dessin. Depuis que je suis tout petit, ça a toujours été le médium premier, quoi. Quand je parle du dessin, j'imagine ça comme le médium de tous les enfants du monde, quoi. Pas que du dessin sur papier, ne serait-ce que tracer des traits dans le sable à la mer, tous les enfants l'ont fait, quoi. Durant mes études aux Beaux-Arts, quand j'ai fait mes premières recherches, je suis passé par différentes techniques. Et il s'avère qu'un jour, je suis tombé sur ce bleu. Donc c'est un bleu assez particulier qui me permet d'obtenir toute une gamme différente en fonction de l'intensité que je mets dans le crayon, qui est un bleu ici, pour enfin, les gens qui découvriront l'exposition. Celui qui est apposé sur les murs, sur cette fresque, est un bleu de céruléum, qui est encore un bleu différent de celui que j'utilise habituellement. Mais ce bleu de céruléum, on peut le retrouver dans le crayonné, dans certains de mes dessins, quand je pose vraiment très délicatement le crayon. À mes yeux, je trouvais que c'était quand même une couleur qui se rapprochait finalement le plus du blanc, quoi. Presque de l'ordre de l'effacement, et donc on a vraiment ce jeu de présence-absence qui m'intéresse beaucoup.
Vous parlez des dessins d'enfants, Rémy Hans. Ici, une des différences majeures, c'est la précision. C'est un travail vraiment très minutieux.
Il y a une minutie, en effet. C'est peut-être quelque chose que j'hérite, finalement, de l'intérêt que j'ai eu pendant très longtemps pour le domaine d'architecture et pour le design industriel. Donc j'ai toujours eu cette pratique de précision que j'ai ensuite questionné différemment.
Et d'où vous vient cet intérêt pour l'architecture ?
C'est un intérêt grandissant que j'ai eu lorsque j'étais plus jeune. Enfin, il s'avère quand même que je viens du Borinage et que c'est une région qui a connu une surexploitation, une surindustrialisation. Et donc j'ai été confronté en étant petit... si pas à la ruine, mais aussi à des bâtiments d'une certaine envergure, quoi. Et donc, je pense que ça a posé un peu les bases d'un intérêt pour l'architecture elle-même, quoi, et pour tout type d'installation et tout type de matériaux.
Pour préparer cette exposition au Musée des Beaux-Arts de Tournai, vous avez eu l'occasion d'aller dans les réserves, dans les archives. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
J'ai découvert des merveilles. Malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas accessibles pour le tout public, mais j'ai eu l'occasion de découvrir des choses qui sont gardées très précieusement dans les caves. Il y a du mobilier, il y a aussi des toiles qui sont préservées dans les meilleures conditions possibles, puis des artefacts divers et variés, des fragments de pierre, de marbre. Donc c'est extraordinaire, enfin, c'est vraiment... Oui, une caverne d'Ali Baba, quoi.
Ici, on se trouve donc dans l'atrium du Musée des Beaux-Arts de Tournai. Et autour de nous, il y a plusieurs éléments d'architecture qui ont été sélectionnés par Rémy, par vous.
Ben, tout d'abord, je pense qu'il est important de signaler que le Musée des Beaux-Arts de Tournai est un des rares musées aussi anciens qui n'ait pas subi au cours de son existence quelques modifications. Ne serait-ce que pour améliorer l'accueil des publics ou le travail que nous devons faire au quotidien, et d'ailleurs l'expo interroge ça, le travail que nous devons faire pour la préservation du patrimoine. Et fort heureusement, donc, il n'a pas subi non plus le même sort que d'autres réalisations de Victor Horta. On pense à la Maison du Peuple, bien entendu, mais aussi à l'hôtel Aubec, qui fut complètement démantelé afin de laisser place à un immeuble de 12 étages moderne, situé à l'avenue Louise. Et donc la tentation était grande de faire revenir dans cet atrium des pierres issues de cet hôtel Aubec, en se disant qu'il est assez fou de se dire qu'on a démantelé un chef-d'œuvre d'Horta, mais qu'il est tout aussi incroyable de se dire que les 650 pierres composant cet hôtel Aubec sont aujourd'hui conservées dans un entrepôt. Et donc ça en disait long aussi sur le rapport qu'on entretient avec la faim. On est allé avec Rémy sélectionner 4 pierres de Victor Horta, 4 pierres dessinées par Victor Horta, parce qu'on sait qu'il dessine à peu près tous les éléments de ses architectures, et qui, revenant dans son atrium, passe de pierre angulaire, finalement, au statut de sculpture. Ce qui est fort intéressant pour nous aussi, c'est qu'on y perçoit ce qu'on ne voit pas habituellement, c'est-à-dire derrière l'ornement de façade, on perçoit à l'arrière le geste du tailleur de pierre. Cette allusion au savoir-faire de l'ombre qui furent nécessaires à la réalisation de cet édifice est importante pour nous aussi, au même titre que l'on voit sur certains plans bleus d'architectes qui sont déposés dans l'installation de Rémy, on voit des traces de pas, probablement des ouvriers ou ingénieurs qui ont travaillé ici même, comme on peut percevoir dans les plâtres miniatures qu'Horta a réalisées pour chaque élément de l'édifice, on peut percevoir aussi ces savoir-faire de l'ombre en fait, nécessaires à la réalisation d'un édifice comme celui-ci.
Dans l'exposition, vous avez décidé de présenter
des bleus d'architecture.
Tout à fait. D'ailleurs, ça a été un peu le point de départ de cette exposition. Donc, le cyanotype par analogie, ici la diazographie, donc c'est ce procédé qui est utilisé pour la reproduction des plans à l'époque. Technique qui, il me semble, actuellement est de moins en moins utilisée, si pas plus du tout. Qui dit diazographie ou cyanotype dit positif, négatif. Donc, c'était un peu la base elle-même du projet et ensuite qui a ouvert le prisme en reprenant cette idée du négatif-positif pour questionner la présence et l'absence que l'on retrouve aussi dans mon dessin. Quoi.
Ce bâtiment est un bâtiment qui a été conçu par Hortin en 1905, mais seulement inauguré en 1928. Le bâtiment a été conçu pour recevoir une collection privée de M. Van Kutsem, un collectionneur bruxellois, qui a donné sa collection à Tournai avec un budget, à condition que Tournai allait construire un musée avec Victor Horta comme architecte. Ce bâtiment est un bâtiment exceptionnel, mais il a toutes les caractéristiques de l'œuvre d'Horta. Ça veut dire que le plan est assez exceptionnel. Il y a la forme de tortue, on dit. C'est un plan avec différentes salles d'exposition pour un art spécifique, sculpture ou des grands tableaux, ou des gravures et des photos. Le bâtiment est conçu autour d'une grande salle. Ça, c'était la salle d'exposition de sculpture. Autour de cette salle, il y a différentes grandes salles conçues sur base d'une option panoptique. Ça veut dire que quand on est au centre de cette grande salle, on voit toutes les grandes salles d'exposition autour. La deuxième spécificité est naturellement la lumière zénitale. Toutes ces salles ont une abondance de lumière naturelle qui traverse le toit et les lanterneaux. Une autre spécificité est cette grande façade principale qui donne sur la cour de l'hôtel de ville et qui est vraiment monumentale avec une sculpture qui invite tout le monde à entrer dans ce musée. Un peu spécifique pour ce musée est que ce bâtiment est construit dans un îlot d'habitation. Ça veut dire que l'îlot a une forme irrégulière et donne sur les jardins, des jardins des voisins. Et alors les autres façades qui sont en briques n'ont pas de qualité spécifique. Ce n'est que la grande façade principale qui est en pierre, qui est naturellement très monumentale et magnifique.
Julien Foucard, on se trouve ici dans l'atrium. Il y a des petites traces un petit peu partout, et notamment ici devant nous, des petites traces dans la peinture. Qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est la première phase du chantier de rénovation du bâtiment Horta. Il s'agit d'un travail qui est effectué par une équipe de restauratrices en bâtiment afin de découvrir la couleur au fait que Horta avait mis sur les murs du musée au moment de son ouverture. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des études stratigraphiques qui consistent à gratter les cimaises du musée pour retrouver les couleurs successives qu'on y a posées. Donc en fait, c'est vraiment le passage du temps sur cette architecture. C'est toutes les expositions qui apparaissent, en fait, du musée. Alors, bien entendu, ça, c'est quelque chose qui a sensibilisé Rémy Hans, qui d'ailleurs le met en évidence dans sa fresque. Il y a un endroit où il intègre c'est une de ses études à son dessin.
Donc on a d'un côté, donc, quand on rentre dans le musée, la partie de gauche, qui parle là d'une idée que j'ai eue en fait en me basant sur les plans qui sont exposés, donc les plans, les bleus d'architecte, où j'ai simplement imaginé en fait faire allusion à l'ouverture prochaine, donc de l'extension qui ouvrira ses portes dans quelques années, en venant projeter deux portes qui existent déjà bel et bien, parce que ce sont les portes par lesquelles on rentre actuellement dans le musée actuel, que j'ai simplement transposé à l'intérieur. Donc pour réimaginer une nouvelle porte en essayant de lui donner le maximum de profondeur, donc de par le bio aussi, que ce soit du pastel sec, c'est important de le préciser, pas du pastel mais du pastel sec, et donc c'est un aspect vaporeux, donc on est un peu happé par le mur, donc on a presque la sensation de rentrer dedans, quoi. Et donc dans la partie de droite, là de l'autre côté, on a la sensation d'un départ soudain des collections, pour faire allusion aussi à la fermeture prochaine du musée, justement pour cette période d'extension et de rénovation. Et donc sur le mur de droite, on découvre un désaccrochage en tapisserie, quoi. Donc on a simplement l'impression d'avoir une absence de cadre, comme si le soleil avait fortement frappé pendant des années la peinture et donc avait généré ces deux teintes différentes, quoi.
Et donc il y a une série de traces de tableaux qui ne sont plus là.
Qui ne sont plus là. Qui viennent peut-être de partir ou alors qui sont partis depuis des années.
La première demande était conserver et restaurer le bâtiment de Victor Horta. C'était la première question. La deuxième question est d'adapter ce bâtiment aux normes en vigueur et de prévoir une extension de ce musée sur le terrain autour. La collection de Van Cutsem est très grande et on expose une petite partie de cette grande collection et on souhaite montrer une plus grande partie de cette collection dans une extension. En plus, le musée aujourd'hui a besoin d'autres fonctions qu'à l'origine. À l'origine, un musée était assez simple. Il y avait une entrée, un vestiaire, il n'y avait pas d'autres accommodations. Maintenant, un musée a besoin d'une accommodation pour les visiteurs et aussi des réserves, des dépôts, des locaux pour restaurer des œuvres d'art. Ça veut dire que le musée avait besoin de beaucoup plus de place que le musée actuel et alors tous ces autres besoins sont prévus dans une extension. En plus, le musée a l'idée d'organiser des expositions avec des œuvres d'art d'autres musées. Et alors voilà, on a besoin d'un musée qui répond aussi aux normes des musées internationaux. L'équipe qui a gagné le concours, c'est l'équipe de Xavier de Gieter, architecte, qui est le coordinateur de cette équipe multidisciplinaire, qui est un architecte de Bruxelles avec un grand palmarès, aussi beaucoup de musées, des bâtiments publics. Dans cette grande équipe, nous sommes responsables pour la restauration du bâtiment d'Horta. Il y a des ingénieurs nés et partners qui sont les ingénieurs responsables pour la stabilité. Il y a Ingenium pour les techniques spécifiques. Il y a ce casque sur la scénographie. Ça veut dire que c'est une équipe interdisciplinaire. On a dès le début parlé d'un projet intégré. Ça veut dire que pour toutes les décisions, on travaille ensemble. Ce n'est pas que moi je m'occupe de la restauration, que Xavier de Gieter et son équipe pour l'extension. Non, c'est vraiment un projet intégré. C'est pour ça que je trouve que c'est un projet exemplaire. Parce que ce n'est pas facile de restaurer un bâtiment tellement prestigieux que ce bâtiment d'Horta et d'agrandir ce bâtiment avec une extension contemporaine. On a gagné le concours il y a quand même déjà plus que 5 ans. Ça veut dire normalement, dans un timing normal, on devrait construire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais le projet a été accepté par la ABAP, par la Commission Monuments et Sites. On a introduit la demande de permis. Ça veut dire la ville a accepté le projet. Et maintenant, le projet est en suspens dans le permis d'urbanisme. On attend la législation future pour décider vraiment ce qu'on va faire. On espère qu'on va trouver le budget et la volonté de continuer le projet parce que le bâtiment a vraiment besoin. Et je pense la ville aussi. La ville veut quand même rénover ce bâtiment exceptionnel. On attend tous le feu vert.
L'exposition « Les Bleus du Temps » de Rémi Hans est à voir au Musée des Beaux-Arts de Tournai jusqu'au 2 juin. C'est dans le cadre de la série « Portraits d'amis ». Les travaux de rénovation et d'extension du musée devraient bientôt commencer. C'est ici que se referme cet épisode de Façon de voir. avec les voix de Thomas Schable, Rocco Miyoshi, Alicia Melzatska, Rémi Hans, Julien Foucard et Barbara Van Der Wey. Merci à Cécile Poss, Cécile Druard, Magali Van Gilbergen et Thierry Dosimon. Réalisation Fabrice Cada, avec le soutien de la Direction des Arts Plastiques Contemporains et de la cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Retrouvez Paroui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.